Chapitre 19. Le ciel, si noir 2 heures auparavant, s'était maintenant parsemé d'étoiles. Les flaques de boue avaient gelé en beaucoup d'endroits, et ainsi Nekhludoff n'eut pas trop de peine à regagner son auberge. Il frappa à la fenêtre, le garçon aux larges épaules vint lui ouvrir et le fit entrer. À droite, dans le corridor, Nekhludoff entendit le ronflement des cochers, dans une pièce sans lumière. Devant lui, dans la cour, il entendit le bruit continu, régulier, d'une troupe de chevaux mangeant de l'avoine. À gauche, il vit ouverte la porte de la grande salle, où une lampe brûlait devant l'image sainte. Et une étrange odeur s'exhalait de cette salle, une odeur d'eau-de-vie et de sueur mélangée. Nekhludoff monta dans sa chambre, ôta son manteau, et s'étendit sur un divan avec son oreiller de peau sous la tête. Et là, tout enveloppé dans son plaid de voyage, il revit en imagination les spectacles divers où il venait d'assister. Mais surtout, il revit avec une intensité extraordinaire le spectacle du petit garçon dormant la tête posée sur les mains près du cuveau à ordures qui suintait sur lui. L'entretien qu'il venait d'avoir avec Simonson et Katyusha l'avait bouleversé. Il sentait qu'un événement s'était produit dans sa vie, un événement imprévu et d'une extrême gravité. Mais il sentait aussi que cet événement nouveau était trop grave et trop imprévu pour qu'il pût encore y penser de sang-froid. Et par tous les moyens, il s'efforçait de n'y point penser, chassant aussitôt tous les souvenirs qui pouvaient se rapporter à sa propre situation et à celle de la jeune femme. Et avec d'autant plus d'intensité, il se représentait le sommeil des prisonniers dans le puant corridor, mais surtout l'innocent sommeil du petit garçon, étendu entre les deux forçats. Autre chose est de savoir que quelque part, très loin, certains hommes s'occupent à en torturer d'autres, à leur infliger toutes les variétés de la souffrance et de l'humiliation. Et autre chose est d'assister, durant 3 mois, au spectacle de cette torture, de voir journellement infliger ses souffrances et ses humiliations. C'est ce dont se rendait compte à présent Nekhludoff. 20 fois, au cours de ces 3 mois, il s'était demandé « Est-ce moi qui suis fou et qui vois des choses que les autres ne voient pas ? Ou bien est-ce les autres qui sont fous, ceux qui font ou tolèrent les choses que je vois ?» Or, les autres hommes étaient si absolument unanimes non seulement à tolérer ces choses qui étonnaient Nekhludoff, mais à les considérer comme importantes et nécessaires, qu'il ne pouvait admettre que tous ils fussent fous. Et d'autre part, il ne pouvait admettre qu'il fût fou lui-même, car ses idées lui semblaient tout à fait claires et suivies, de sorte qu'il ne savait toujours pas à quelle solution il devait s'arrêter. Du moins se représentait-il sans cesse plus nettement la signification générale de ce qu'il avait vu durant ces 3 mois. Et voici sous quelle forme il se la représentait. Il avait l'impression, d'abord, que, entre tous les hommes qui vivaient en liberté, la magistrature et l'administration choisissaient les plus ardents, les plus éveillés, en un mot, les plus vivants, mais aussi les moins prudents et les moins rusés, et que ces hommes, sans être plus coupables ni plus dangereux que ceux qui restaient en liberté, se voyaient enfermés dans des prisons, des étapes, des bagnes, où on les maintenait durant des années dans l'oisiveté, loin de la nature, de la famille, du travail, c'est-à-dire en dehors de toutes les conditions normales de la vie humaine. En second lieu, Nekhludoff avait l'impression que ces hommes, dans les prisons, étapes, etc., se voyaient soumis à toute une série d'humiliations, chaînes aux pieds, menottes, têtes rasées, costumes de prison, qui n'avaient d'autre objet que de détruire en eux ce qui constitue les principaux mobiles de la vie morale pour la grande moyenne des hommes, c'est-à-dire le souci du respect d'autrui, la honte, le sentiment de la dignité humaine. En troisième lieu, Nekhludoff avait l'impression qu'en exposant ces hommes à un danger constant de maladie ou de mort, on les plaçait dans cette disposition d'esprit où l'homme le meilleur et le plus moral se trouve porté, par l'instinct de conservation, à commettre et à justifier les actes les plus cruels et les plus immoraux. En quatrième lieu, Nekhludoff avait l'impression qu'en obligeant ces hommes à ne subir jour et nuit d'autres compagnies que celles d'êtres foncièrement dépravés, assassins, voleurs, incendiaires, on les obligeait à subir eux-mêmes l'épidémie de cette dépravation. Et Nekhludov se disait encore que, en traitant ces hommes comme on le faisait, en se livrant à leur égard à toutes sortes de mesures monstrueuses, en séparant les parents des enfants et les maris des femmes, en offrant une prime à la dénonciation, etc., c'était comme si l'on eût cherché à prouver à ces hommes que toutes les formes de la violence, de la cruauté, de la bestialité, non seulement n'étaient pas défendues, mais étaient même recommandées par la loi, quand elles rapportaient un profit. D'où ressortait la conclusion que toutes ces choses étaient tout particulièrement permises à des hommes privés de leur liberté et se trouvant dans le pire dénuement. On dirait, en vérité, songeait Nekhludov, que cet ensemble de mesures a été inventé à dessein pour propager de la façon la plus sûre, chez les hommes les plus vivants de la nation, la dépravation et le vice. Et cela de manière à ce que la dépravation et le vice se répandissent ensuite dans la nation tout entière. Tous les ans, des milliers d'êtres humains se trouvent ainsi pervertis, dépouillés de leurs sentiments naturels, contraints à la pratique des actions les plus monstrueuses. Et quand on a achevé de les pervertir, on les relâche pour qu'ils puissent propager dans la nation entière les germes malfaisants dont on les a imprégnés. Déjà dans la prison où il avait retrouvé Katyusha, et plus tard sur tout le trajet du convoi, à Perm, à Ekaterinenbourg, à Tomsk, à toutes les étapes, Nekhludov avait vu se produire les effets de ce qu'il ne pouvait considérer autrement que comme un vaste plan de démoralisation nationale. Il avait vu des natures simples, moyennes, pénétrer des traditionnelles notions morales du paysan et du chrétien, il les avait vues se dépouiller par degrés de ces notions pour acquérir en échange d'autres notions qui consistaient surtout à admettre la légitimité de toute violence et de tout déshonneur. Devant le spectacle des traitements infligés aux prisonniers, ces natures en étaient venues à tenir pour des mensonges tous les principes de justice et de charité que leur religion leur avait enseignés. Et elles en avaient conclu qu'elles-mêmes pouvaient se dispenser de suivre ces principes. Chez un grand nombre des prisonniers du convoi, Nekhludov avait observé des exemples de cette dépravation. Chez Fedorov, chez Macaire, et même chez Taras, qui, après 2 mois de cohabitation avec les forçats, avait fini par prendre beaucoup de leurs habitudes de sentir et de s'exprimer. Nekhludov l'avait entendu, notamment, parlait avec admiration du vieux forçat qui se vantait d'avoir tué et mangé son compagnon de fuite. Et il songeait que, sous l'effet de ces traitements infligés aux prisonniers, le paysan russe arrivait, en quelques mois, au même état de perversion où se trouvaient amenés, après des siècles de pourriture morale, les intellectuels qui glorifiaient et prêchaient les doctrines de Nietzsche. Et Nekhludov lisait bien dans les livres que cet ensemble de mesures dont il voyait la conséquence trouvait sa justification dans la nécessité où l'on était d'écarter de la société certains membres dangereux, ou encore de les effrayer, ou encore de les corriger. Mais rien de tout cela n'avait aucun rapport avec la réalité. Au lieu d'écarter de la société les membres dangereux, on ne faisait qu'y propager la dépravation. Au lieu d'effrayer ces membres, on ne faisait que les encourager, en leur donnant l'exemple de la cruauté et de l'immoralité. Et d'ailleurs en leur assurant une vie de paresse et de débauche qui leur plaisait assez pour qu'une foule de vagabonds sollicitasse comme une faveur d'être mis en prison. Au lieu de corriger ces membres dangereux, on ne faisait que les contaminer systématiquement de tous les vices. Mais alors, pourquoi fait-on tout cela? Se demandait Nekhludov. Et il ne trouvait toujours pas de réponse. Et ce qui le tenait le plus, c'est que tout cela ne se faisait point d'une manière provisoire, par suite d'un malentendu, mais se faisait d'une manière continue et réfléchie, et depuis de longs siècles, avec cette seule différence que jadis, on arrachait les narines aux prisonniers et qu'on les conduisait sur des radeaux, tandis qu'à présent on leur mettait des menottes, on leur crevait les yeux à coups de poing et on les faisait voyager en bateau à vapeur. Nekhludov trouvait aussi des auteurs pour lui dire que les mesures qui l'indignaient résultaient simplement de l'insuffisance des lieux de détention et d'une mauvaise organisation qui n'allait point tarder à être améliorée. Mais cette réponse-là non plus ne le satisfaisait point. car il sentait trop que le mal qui le révoltait ne dépendait pas seulement de l'insuffisance du nombre des prisons, ni de tel ou tel défaut d'organisation. L'expérience lui prouvait que ce mal grandissait d'année en année, malgré les soi-disant progrès de la civilisation. Il savait que 50 ans auparavant, les convois de prisonniers n'offraient pas au même degré le spectacle de l'abrutissement et de la dépravation, bien qu'on n'eût pas alors de chemin de fer ni de bateau à vapeur pour les conduire à travers la Russie. Et il ne pouvait lire sans un mélange de dégoût et d'inquiétude ces descriptions de prisons modèles rêvées par les sociologues, où les condamnés seraient éclairés, chauffés, nourris, fouettés et exécutés à l'électricité. Et Nekhludov s'indignait de penser que des juges et des fonctionnaires touchaient tous les ans de grosses sommes, extorquées au peuple, simplement pour lire, dans des livres écrits par d'autres juges et fonctionnaires comme eux, les moyens d'expédier certains hommes dans des endroits lointains, de façon à en être débarrassés pendant quelque temps, mais de façon aussi à ce que ces hommes périssent à coup sûr, moralement sinon physiquement. Et à mesure qu'il étudiait de plus près les prisons et les étapes, Nekhludov comprenait que tous les vices répandus parmi les prisonniers, l'ivrognerie, le jeu, la violence, l'impudicité, que tous ces vices n'étaient nullement la manifestation d'un prétendu type criminel, inventé par des savants au service de l'autorité, mais qu'ils étaient la conséquence directe de l'aberration monstrueuse en vertu de laquelle certains hommes s'étaient arrogé le droit de juger et de punir d'autres hommes. Nekhludov comprenait que le cannibalisme du vieux forçat n'avait pas eu son origine au bagne ni dans le désert, mais bien dans les ministères, les commissions et les chancelleries. Il comprenait que ce qui se passait au bagne n'était que l'aboutissement de ce qui se passait dans ses sphères supérieures, et que des hommes comme son beau-frère, par exemple, n'avaient rien à faire avec la justice ni avec le bien de la nation qu'ils se vantaient de servir, mais que leur unique préoccupation était d'acquérir les roubles qu'on leur payait pour accomplir ces basses besognes, d'où résultaient tant de souffrances et de dépravations. Au fait, est-ce que tout cela ne serait pas vraiment la conséquence d'un malentendu? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger pour garantir à tous ces fonctionnaires leur traitement et même pour leur offrir une prime, à la condition qu'ils s'abstinssent désormais de ces néfastes besognes que les malheureux se croient tenus d'accomplir pour gagner leur argent? Ainsi songeait Nekhludov. Et c'est au milieu de ces songeries que le sommeil vint enfin le prendre au petit jour, en dépit des punaises qui, depuis qu'il s'était couché, couraient autour de lui comme des fourmis dans une fourmilière. Chapitre 20. Le lendemain matin, vers 9 heures, quand Nekhludov se réveilla, la corpulente hôtesse lui remit une enveloppe qu'avait apportée pour lui, depuis 2 heures déjà, un des soldats attachés à l'étape. C'était un billet écrit par Marie Pavlovna. La jeune fille annonçait à Nekhludov que l'accident arrivé la veille à Kryltsov était beaucoup plus sérieux qu'on ne l'avait cru. « Nous avons eu l'idée de le faire rester ici un jour ou deux et d'y rester avec lui. Mais on ne nous l'a point permis. De telle sorte que nous l'emmenons avec nous, mais nous avons bien peur. Ne pourriez-vous pas obtenir que si son état le force à rester à S, c'était l'étape suivante du convoi, un de nous soit autorisé à rester près de lui. Si par hasard cette autorisation était de nouveau refusée, et si vous jugiez que, en devenant la femme de Kryltsov, je pourrais avoir la permission de rester près de lui, je n'ai pas besoin de vous dire que je consentirais fort bien à cette formalité. » Nekhludov fit atteler sa voiture et se hâta de préparer sa valise. Il n'avait pas encore fini de boire son second verre de thé quand il entendit, sur le sol gelé de la route, sonore comme le pavé, retentir le bruit des roues de la troïka qui venait le chercher. Il paya sa note, monta dans la voiture et dit au cocher d'aller aussi vite que possible afin de rejoindre au plus tôt le convoi. Et le fait est qu'après 1 heure de bon trot, il vit devant lui, sur la route, la file noire des voitures qui emmenaient, avec les bagages de tout le convoi, les prisonniers malades et les condamnés politiques. L'officier, comme la veille, était parti en avant pour diriger et surveiller la marche des piétons. Derrière les voitures et tout autour d'elles, sur les deux côtés de la route, des soldats marchaient d'un pas vif et gai, en homme qui avait bu un bon coup avant de partir. Les voitures étaient en grand nombre, au moins une vingtaine. Dans les dernières, celles que Nekhludov rencontra d'abord, se trouvaient entassées, 6 par 6, les condamnés de droit commun. Dans les premières se tenaient, 3 par 3, les condamnés politiques. Novodvorov voyageait en compagnie de Markel et de la Grabetz. Emily Rantsev et Nabatov avaient près d'eux la femme enceinte à qui Marie Pavlovna avait cédé sa place. Enfin, dans une troisième voiture, Nekhludov vit Kryltsov étendu sur une couche de paille, avec des coussins sous la tête. Près de lui était assise, sur le rebord de la voiture, Marie Pavlovna. Nekhludov ordonna à son cocher de s'arrêter, descendit de sa voiture et s'approcha de celle où était Kryltsov. Les soldats qui entouraient la voiture lui firent signe d'avoir à s'écarter, mais il était accoutumé déjà à ne tenir aucun compte de ce genre d'avertissement. Et en effet, les soldats, après leur première protestation, le laissèrent marcher près de la voiture aussi longtemps qu'il voulut. Enveloppé dans sa pelisse et coiffé de sa casquette de peau d'agneau, avec un mouchoir noué autour de la bouche, Kryltsov semblait avoir encore maigri et pâli. Ses yeux, seuls vivants dans tout son visage, brillaient d'un éclat qui les faisait paraître agrandis démesurément. Sans cesse secoué par les cahots de la voiture, il regardait devant lui avec une expression de vive souffrance. Et quand Nekhludov lui demanda comment il se sentait, il se borna à fermer un instant les yeux, puis tourna la tête d'un air irrité. Toutes les énergies de son être, évidemment, il les concentrait à supporter les chocs de la voiture. Marie Pavlovna, dès qu'elle avait aperçu Nekhludov, lui avait adressé un regard où il avait lu clairement toute son inquiétude. Mais, aussitôt après, elle s'était mise à lui parler du ton le plus calme et le plus enjoué qu'elle pouvait. « Une bonne nouvelle !» s'était-elle écriée, assez haut pour dominer le bruit des roues. « Figurez-vous que l'officier aura eu honte. Il a fait enlever les menottes au père de la petite fille ce matin et l'a autorisé à porter son enfant. Moi, c'est Vera qui a consenti à me céder sa place. Et voilà comment je roule en voiture, tandis qu'elle marche à pied devant nous avec Simonson et Katia. » Puis il y eut plusieurs minutes de silence. Et tout à coup, Kryltsov, repoussant le mouchoir qui lui couvrait la bouche, prononça quelques mots que ni Marie Pavlovna ni Nekhludov ne parvinrent à entendre. Le malade les regarda alors d'un regard impatienté et de nouveau ferma les yeux, faisant effort sur lui-même pour ne point tousser. Marie Pavlovna se pencha sur lui, tendit son oreille, et Kryltsov, se redressant, murmura « Maintenant, je me sens beaucoup mieux. Si je ne prends pas froid, je suis tiré d'affaire. » Puis, se tournant vers Nekhludov avec un pénible sourire, « Eh bien, et où en est le problème des trois corps? Avez-vous trouvé une solution ?» Nekhludov le regardait avec anxiété, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire. Mais Marie Pavlovna lui expliqua que les savants appelaient ainsi un problème concernant les relations astronomiques du Soleil, de la Terre et de la Lune, et que Kryltsov, la veille déjà, avait imaginé par plaisanterie de comparer à ce problème celui des relations sentimentales de Nekhludov, de Simonson et de la Maslova. Kryltsov fit un signe de tête pour confirmer l'explication de la jeune fille. « La solution ne dépend pas de moi, » dit Nekhludov. « Vous avez reçu mon billet? Vous ferez ce que je vous ai demandé ?» demanda Marie Pavlovna. « Comptez sur moi, » répondit Nekhludov. Puis, croyant voir que le visage de Kryltsov se contractait de nouveau, comme si cet entretien où il ne pouvait prendre part l'eût importuné, Nekhludov s'écarta et regagna sa voiture. L'allusion de Kryltsov lui avait remis en mémoire sa propre situation, qu'il s'était, depuis la veille, efforcé d'oublier. Et un désir lui était venu de rejoindre au plus vite Katyusha pour avoir avec elle un entretien décisif. De nouveau, il ordonna au cocher de faire trotter ses chevaux, et c'est avec un serrement de cœur qu'il aperçut devant lui, après 2 ou 3 verstes de course, le fichu bleu qui couvrait la tête de la Maslova. La jeune femme marchait à l'arrière du convoi, en compagnie de Vera Efremovna et de Simonson, qui paraissaient en train d'expliquer quelque chose à ses 2 compagnes avec force gestes de ses longs bras maigres. Quand Nekhludov les eut rejoints, les 2 femmes le saluèrent en souriant, et Simonson ôta sa casquette avec un empressement tout particulier. mais Nekhludov, en les voyant ainsi réunis, ne se sentit pas le courage de leur parler. Au moment de faire arrêter la voiture, il se ravisa. Il ne tarda pas à dépasser le convoi, qui se traînait le long de la route, avec son accompagnement ordinaire de cris, de rires et de bruits de chaînes. La route que suivait sa voiture le conduisit dans une sombre forêt, où des bouleaux et des mélèzes offrirent à ses yeux les mille nuances diverses du jaune de leurs feuilles. Puis la forêt disparut. Des deux côtés de la route s'étendirent d'immenses champs, et dans le lointain, Nekhludov aperçut les coupoles et les croix dorées d'un monastère. Cependant, le jour s'était brusquement égayé, les nuages s'étaient dispersés, le soleil avait surgi au-dessus des champs. Et le givre et la boue gelée de la route, et les coupoles et les croix brillaient doucement. Et cette lumière faisait paraître plus immense encore l'étendue des plaines, jusqu'à la ligne bleue des montagnes barrant l'horizon. Enfin, la troïka entra dans un grand village, faubourg de la ville où se rendait Nekhludov. La rue de ce village était pleine de passants, russes et étrangers, montrant une variété extraordinaire de costumes et de coiffures. Des groupes bavardaient, se querellaient, riaient devant la porte des boutiques, des hôtelleries et des cabarets. Des chariots se traînaient lourdement ou se tenaient arrêtés au milieu du chemin. Tout faisait sentir le voisinage de la ville. Après s'être redressé sur son siège, de façon à se montrer sous l'aspect le plus avantageux, le cocher fouetta ses chevaux et réussit à leur faire traverser en courant la longue rue du village, malgré cette foule qui la remplissait. La troïka ne s'arrêta que sur la rive d'un fleuve qui séparait le village de la ville et que l'on traversait sur un large bac. Le bac se trouvait alors au milieu du fleuve, s'avançant vers la rive où était Nekhludov. Une vingtaine de chariots étaient là qui l'attendaient. Mais les deux hommes qui conduisaient le bac firent signe au cocher de Nekhludov qu'il pourrait faire entrer sa voiture avant toutes les autres. Et quand le bac fut rempli, ils fermèrent la barrière qui y donnait accès, sans s'inquiéter des protestations de nombreux charretiers dont les voitures n'avaient pu trouver place. Et lentement, le bac se mit à glisser à la surface de l'eau, sans autre bruit que celui des vagues se brisant sur ses bords, et, par moments, celui des sabots de chevaux frappant le plancher. Chapitre 21. Nekhludov se tenait debout au bord du bac, les yeux fixés sur l'eau rapide du fleuve. Son imagination lui représentait tour à tour deux images, l'image de Kryltsov, agonisant sur la paille de la voiture avec son regard irrité, et l'image de Katyusha, marchant d'un pas alerte le long de la route, en compagnie de Vladimir Simonson. Et l'une de ces deux images, celle de Kryltsov ne se résignant pas à la mort, était effrayante et lamentable. L'autre image, celle de Katyusha ayant trouvé pour l'aimer un homme tel que Simonson, et marchant dans la voie du bien du même pas alerte dont elle marchait le long de la route, cette image-là n'avait en soi rien que de gai et de réconfortant. Et cependant, les deux images étaient pour Nekhludov également cruelles, et il ne parvenait pas à les chasser de son esprit, et elles s'y mêlaient pour produire une impression totale de lourde tristesse. De la ville, le vent apporta le son argentin d'une cloche, annonçant quelque office. Le cocher de Nekhludov et tous les autres passagers se découvrirent et firent le signe de la croix. Seul un petit vieillard en haillons resta couvert et se tint immobile, les mains derrière le dos. « Eh bien, et toi, le vieux, tu ne pries pas ?» demanda le cocher de Nekhludov après avoir remis sa casquette. « Tu n'es donc pas baptisé ?»« Prier ? Et qui prierai-je ? » fit le vieillard loqueteux, en s'avançant vers le cocher et en le fixant dans les yeux. « Voilà une question. Et Dieu, tu n'y crois donc pas? Et toi, tu le connais? Tu sais où il est ?» Il y avait quelque chose de si sérieux et de si dur dans l'expression du vieillard que le cocher, évidemment, se sentit quelque peu intimidé. Mais un cercle s'était formé autour de lui, de sorte qu'il poursuivit l'entretien afin de paraître avoir le dernier mot. « Où est Dieu ?» « Imbécile, tout le monde sait qu'il est au ciel. »« Tu l'y as vu, peut-être ? Tu as été au ciel ?»« Pour y avoir été, je n'y ai pas été. Mais tout le monde sait qu'on doit prier Dieu. »« Personne n'a jamais vu Dieu. C'est son Fils unique, siégeant au sein du Père, qui l'a dit. reprit le vieillard de sa voix sévère en fronçant les sourcils. « Alors, comme ça, tu n'es pas chrétien. Tu es un idolâtre, » demanda le cocher. Il se détourna et cracha en signe de mépris. « De quelle religion es-tu, petit père ?» demanda au vieillard un charretier qui se tenait là, à côté de ses chevaux. « De religion, je n'en ai aucune. Je ne crois en personne qu'en moi, » répondit le vieillard avec son regard courroucé. « Et comment peut-on croire en soi-même ? » demanda Nekhludov, de plus en plus intrigué par l'étrange personnage. « C'est la seule manière de ne pas se tromper. » « Mais alors d'où vient qu'il y ait tant de religions diverses ?»« Cela vient de ce que l'on croit dans les autres. Et moi aussi j'ai cru dans les autres. Et j'ai erré comme dans une forêt. Je me suis tellement embrouillé que j'ai cru que jamais je ne retrouverais mon chemin. Des vieux croyants et des nouveaux croyants, et des sabbatistes, et des schlistes, et des popovistes, et des non-popovistes, et des scoptsis. J'en ai vu, et de toutes les couleurs. Et pas une religion qui ne prétende être la seule bonne. Des religions, il y en a beaucoup. Mais l'esprit est un. Il est le même en moi, et en toi, et en eux. Et cela veut dire que chacun doit croire dans l'esprit qui est en lui, et qu'ainsi tout le monde pourra se trouver réuni. Le vieillard parlait d'une voix sans cesse plus haute, en promenant son regard autour de lui, comme s'il voulait se faire entendre du plus grand nombre possible de personnes. « Y a-t-il longtemps que vous prêchez ainsi ?» lui demanda Nekhludov. « Moi, oh, très longtemps. Voilà 23 ans qu'on me persécute. Et comment cela ? Oui, comme on a persécuté le Christ, on me persécute. On m'arrête, on me traîne devant les juges, les prêtres, les scribes et les pharisiens. On me met dans les maisons de fous. Mais on ne peut rien me faire parce que je suis libre. Comment t'appelles-tu, qu'on me demande? On se figure que je porte un nom, mais je n'en porte aucun. J'ai renoncé à tout. Je n'ai ni nom, ni pays, ni patrie. Je n'ai rien. Je n'ai que moi. Comment on m'appelle? Un homme. Et quel âge as-tu? Moi, que je réponds, je ne compte pas mon âge. Et d'ailleurs, je n'ai pas d'âge. Parce que l'esprit qui est en moi a toujours existé et existera toujours. Et ton père, qu'on me dit, et ta mère? Non, non, je leur dis, chez moi il n'y a ni père ni mère, excepté Dieu et la terre. Dieu, c'est mon père, la terre, c'est ma mère. Et le tsar, qu'on me dit, tu ne le reconnais pas? Pourquoi ne le reconnaîtrais-je pas? Il règne de son côté et moi du mien. Tiens, qu'on me dit, impossible de parler avec toi. Mais que je leur réponds, je ne te demande pas de parler avec moi. Et alors ils se mettent à me martyriser. Mais maintenant, où vas-tu? Demanda Nekhludov. Je vais où Dieu me conduira. Je travaille. Et quand je ne trouve pas à travailler, je m'en dis, répondit le vieillard, en même temps qu'il promenait autour de lui un regard de triomphe. Déjà le bac abordait à l'autre rive. Nekhludov tira son porte-monnaie et offrit au vieillard une pièce d'argent. Mais le vieillard refusa de la prendre. « De ça, je n'en reçois pas. Je ne reçois que du pain, » dit-il. « Excuse-moi. Je n'ai pas à t'excuser. Tu ne m'as pas offensé. Et d'ailleurs, personne ne peut m'offenser, » dit le vieillard en ramassant son sac déposé à ses pieds. La foule sur le bac de nouveau s'agitait. On tirait les voitures, on attelait les chevaux. « Vous avez de la bonté de reste, Barine, pour aller faire la conversation avec des gens comme ça. » dit à Nekhludov le cocher en sortant du bac. « Si on devait les écouter tous, ces vagabonds,